Mais ce matin, on va regarder dans la parole de Dieu et la question qui se pose, c'est qui nous roulera la pierre? Si vous connaissez bien l'histoire de Jésus et l'histoire de sa crucifixion et l'histoire de sa résurrection, vous allez reconnaître tout de suite cette phrase. Mais on va examiner ceci un peu plus à fond aujourd'hui. Qui nous roulera la pierre? On sait que c'est Pâques. Et Pâques, c'est quoi? C'est vraiment la célébration de la résurrection de Jésus-Christ. Avant que Jésus fût ressuscité, par exemple, on sait qu'il est né. On sait que Dieu qui était, qui est et qui va venir, c'est lui qui a créé tout l'univers et tout ce que nous voyons et tout ce que nous ne voyons pas. Toutes choses ont été créées par la parole de Dieu, par elle, avait dit. Et on sait que Dieu a pris une décision à cause de son grand amour pour nous, pour l'humanité qui était pécheur, qui était séparée d'avec Dieu. Dieu a pris une décision d'envoyer son Fils unique dans le monde. Et on sait que Dieu qui existait toujours de l'éternité, qui n'a pas eu de commencement, que Dieu le Fils s'est fait chair, que Dieu est devenu un homme. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Dieu est devenu homme et il a marché sur la terre sans péché. Il était parfait. Le seul homme qui a pu réussir sa vie complètement et parfaitement sans avoir jamais péché une seule fois. Ça, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est capable de dire, moi, j'ai jamais fait une erreur, j'ai jamais péché, je suis parfait? Si vous levez la main, on va commencer à prier pour les menteurs. Mais Jésus, il était et il est parfait. Il a vécu une trentaine d'années sur la terre. Et finalement, un jour, il a offert sa vie en sacrifice. Il a dit, personne m'ôte la vie. Il n'y a personne qui a ôté la vie de Jésus. Mais volontairement, il a donné sa vie. Même quand il était à la croix, cloué à la croix, on sait qu'il aurait pu, avec un seul mot, invoquer le Père. Et le Père aurait envoyé des dizaines de milliers d'anges pour l'épargner de cette mort et de la cruauté et de la souffrance qu'il était en train de subir. Nous sommes tous d'accord avec cela, n'est-ce pas? Mais je suis content que Jésus, dans sa passion, il n'a pas été tenté, on vous pourrait dire, ou n'a pas cédé à la tentation de lâcher prise. Il est allé jusqu'au bout. Il a versé son sang pour chacun de nous. Il est mort, il était enterré. En fait, il y avait un homme riche, on va lire le passage tantôt, un homme riche qui avait un sépulcre. Et ils ont mis le corps de Jésus dans ce sépulcre. Et ils ont roulé une pierre devant l'ouverture. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus n'a pas resté dans le tombe. Amen. On va parler de cela aujourd'hui, mais juste avant d'aller plus loin, on va lire plusieurs versets de la parole de Dieu qui vont nous aider à mieux comprendre. Et on va pouvoir répondre à cette question. Qui nous roulera la pierre? Et nous allons voir la signification de cette pierre. La pierre qui a été devant le tombe de Jésus représente des choses dans notre vie aujourd'hui. Amen. Donc, je ne sais pas si vous serez capable de garder l'attention pendant que quelqu'un monte sur une échelle pour enlever une colonne du son qui est en train de prendre feu. Personne ne regarde, personne pense à ça. Non? Tout est beau, nous sommes en sécurité. On va juste prendre une petite pause de 2 secondes. Voilà. Et là, nous voyons un sermon illustré du corps de Christ à l'œuvre. Nous voyons l'importance de tous les membres du corps. Regarde, on ne peut pas faire la job tout seul. Imagine si c'était juste une personne ici en train de démanteler cette colonne de son. Ça serait dangereux. La job ne serait pas accomplie. Mais aujourd'hui, nous voyons vraiment l'image d'une équipe à l'œuvre, n'est-ce pas? On voit les cœurs des serviteurs qui ne pensent pas à eux-mêmes, mais qui sont prêts à tout faire pour aider et servir le corps de Christ. Donc, on va remercier le Seigneur pour eux encore aujourd'hui. Merci Seigneur. Bon, et là on va rembobiner et on va se remettre dans le message d'aujourd'hui. qui est vraiment qui nous roulera la pierre. Nous savons qu'il y avait une grosse pierre qui a été mise devant le tombe de Jésus. Et on va voir dans une minute qu'est-ce que ça pourrait représenter. Et on va voir comment c'est nécessaire que cette pierre soit roulée. Comme il y avait une pierre devant le tombe de Jésus, je crois qu'il y a des grosses pierres des fois qui tiennent les choses dans notre cœur et qui nous empêchent de vivre pleinement. Et aujourd'hui, on va demander au Seigneur de rouler cette pierre et on va voir clair. Amen. Regardons cette histoire en chapitre 27 de Matthieu, le 57e verset. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus, et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa dans linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf, qui s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre, tout le monde dit une grande pierre, à l'entrée du sépulcre. Il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Et ça, c'est important parce que ces deux personnes, Marie de Magdala, sont des personnes clés dans cette histoire. Et on peut imaginer qu'ils viennent d'observer et de regarder et d'être témoins de la crucifixion de Jésus. Ils ont vu celui qui a opéré des miracles pendant 3 ans de temps. Ils ont vu cet homme qui était tellement rempli d'amour et de compassion, et cet homme en qui ils ont mis toute leur espérance et tout leur amour. Ils ont vu cet homme battu de verges. Ils ont vu cet homme torturé. Ils ont vu les soldats arracher sa barbe. Ils ont vu les personnes clouer le Sauveur à la croix. Ils ont vu le côté percé par les soldats. Ils ont vu leur maître mourir. Et vous pouvez juste imaginer l'horreur. Et surtout, si tu penses à Marie, qui était la mère de Jésus. Imaginez, regardez et être témoin de la crucifixion de ton propre fils. C'est épouvantable, presque impensable. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, ils ont vu tout cela. Et en plus, ils ont regardé, ils étaient proches, quand ils ont mis le corps de Jésus dans la tombe, quand ils ont roulé la grosse pierre, qui était grande, qui était énorme, qui était pesante, qui pesait littéralement les tonnes, ils ont vu, dans le fond, la fermeture du sépulcre avec cette grosse pierre. Marie et Marie de Magdala étaient assises vis-à-vis au tombe. Et là, qu'est-ce qui se passe? On va continuer cette histoire. Ils étaient là, assis, ils ont vu la pierre, ils ont vu le tombe fermé. Mais on continue ici dans le 62e verset. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent, « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, « Après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé, souligne le mot gardé, jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, « Il est ressuscité des morts. » Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, « Vous avez une garde. Allez, gardez-le comme vous l'entendrez. » Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé, tu peux souligner le mot scellé, la pierre. Donc encore, mettez-vous dans l'histoire. Ces hommes ont finalement réussi à se débarrasser de Jésus qui dérangeait toute la société, qui mettait en péril le pouvoir qu'il exerçait sur le peuple et tout cela. Donc, ils sont allés demander la permission d'avoir une garde placée devant le tombe de Jésus, parce qu'ils ne voulaient pas que le corps de Jésus soit volé. Donc, Pilate a dit, allez-y, vous avez votre garde. Et donc, on sait que c'était probablement toute une escouade des soldats romains qui gardaient le tombe de Jésus. Et en plus, ils ont mis un sceau sur la tombe, probablement un sceau en cire, avec le sceau de l'Empire de Rome, qui en fait disait que personne n'avait le droit de l'ouvrir. C'était scellé et c'était gardé. Tout le monde dit scellé et gardé. Donc cette grosse pierre scellée, le tombe gardé, qu'est-ce que ça pourrait représenter? On voit cela, et ce que je vois dans mon cœur, c'est que dans la pensée et dans le cœur de Marie et de Marie de Magdala, quand ils ont vu cette grosse pierre rouler devant le tombe, c'était pour eux probablement pas juste une tombe qui est scellée, mais un échec qui est scellé. Bon, ça y est, c'est terminé. Tout ce que nous avons voulu voir avec Jésus, c'est terminé. On pensait que c'était vraiment lui le Messie. On pensait que c'était vraiment lui qui allait sauver Israël. Et maintenant, il est mort. Il n'est pas seulement mort, mais il y a cette grosse pierre qui est roulée devant le tombe. C'est scellé, un échec scellé. Peut-être vous avez des échecs dans votre vie. Vous avez la même impression que, bon, ça y est, c'est terminé, ma vie n'est plus bonne, je ne vais jamais pouvoir réussir dans la vie. Il y a des choses qui tiennent votre cœur, les échecs et les défaites du passé qui pèsent fort sur votre cœur. Aussi, c'était, je pense, pour eux autres, un désespoir renfermé. C'est que, bon, on a eu de l'espérance, maintenant nous sommes déçus. C'est un désespoir qui est renfermé dans le tombe avec Jésus. Et je vais rester dans ce désespoir pour le restant de ma vie. Peut-être vous, aujourd'hui, il y a des choses dans votre vie qui vous ont déçu et vous êtes désespéré pour votre vie, pour votre famille, pour votre mariage, pour votre santé, pour votre vie spirituelle. Je ne sais pas c'est quoi, mais vous avez peut-être un désespoir et pour vous, c'est comme renfermé en arrière d'une grosse pierre dure. La vie, des fois, est dure. Vous êtes d'accord? Hein? La vie, des fois, nous amène des surprises. On ne s'attendait pas à cela. On peut imaginer aussi que pour Marie et Marie Magdalene, c'était sûrement une angoisse gardée. Quelle angoisse de voir son propre fils crucifié. Quelle angoisse de voir celui qui t'a sauvé, si on parle de Marie Magdalene, et celui qui a inspiré une nouvelle vie chez cette personne. Maintenant, cette nouvelle vie est dans l'ombre de cette défaite, de cet échec et de cette souffrance. Et cette angoisse est comme gardée. Cette escouade de soldats devant la tombe sont juste un souvenir et un rappel que cette douleur que vous avez dans le cœur va rester là pour toujours. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression, des fois, dans votre vie, que l'angoisse que vous avez vécue, c'est comme, bon, il n'y a pas d'espoir, ça va rester comme ça pour le restant de ma vie. Je ne sais pas comment arrêter d'avoir mal. Est-ce que vous avez déjà vécu cela? C'est comme une grosse pierre qui est pas seulement scellée, mais c'est gardée. Et laissez-moi vous dire que c'est comme ça dans la vie. L'ennemi aimerait vous garder dans l'angoisse. Mais on va voir qu'il y a une bonne nouvelle qui s'en vient. Est-ce que vous avez hâte d'entendre la bonne nouvelle? Mais avant d'entendre la bonne nouvelle, il faut quand même penser un peu plus à Marie. Parce qu'on sait que le lendemain, ils sont allés au tombe avec les aromates, avec les épices, pour embaumer et terminer la préparation du corps de Jésus. Et c'est là où tantôt on va voir, ils ont posé la question, qui roulera la pierre? Pour eux, dans leur tête, c'est comme bon, on veut aller, on a une mission à accomplir et on a besoin de achever et de terminer notre deuil, mais on ne peut même pas le faire parce qu'il y a une grosse pierre et cette pierre est scellée et cette pierre est gardée par des soldats. Et il y a une certaine frustration et une certaine, on pourrait dire, un sentiment de désespoir encore qui renaît dans le cœur parce que, écoute, on a tout simplement voulu aller embaumer et enterrer Jésus comme il faut pour pouvoir faire notre deuil. Mais c'est une grosse pierre scellée et gardée qui nous empêche de le faire. Moi, je sais qu'il y a des gens ici qui n'ont pas... Peut-être que vous avez vécu des choses dans votre vie et vous avez un deuil à faire, mais c'est comme vous n'êtes même pas capable de faire le deuil. Il y a une grosse pierre qui tient votre cœur. Est-ce que vous savez de quoi je parle? Et vous vivez avec cela, année après année, jour après jour. Pensez à Marie, Pensez à Marie Magdala. Ils veulent tout simplement enterrer le Seigneur comme il faut, de la bonne manière, mais une grosse pierre scellée et gardée qui les empêche. Et puis finalement, on pourrait dire que cette pierre, pour eux, c'était sûrement comme un fardeau resté. Et c'est ça que je vois. On voit aujourd'hui, il y a des personnes qui portent avec eux un fardeau. Il y a des choses qui pèsent dur sur le cœur. Ils ne sont pas capables de se réjouir. Ils sont sous le fardeau du passé. Est-ce que vous savez de quoi je parle? Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent un peu l'idée aujourd'hui? Amen. Marc 16, verset 1 dit ceci. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre du grand matin, comme le soleil venait de se lever, et elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre ?» On va le dire ensemble, « Qui nous roulera la pierre ?»« Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» C'est une bonne question. Deux femmes. On ne sait pas quelle grandeur elles avaient, mais on parle des deux femmes qui sont angoissées, qui sont désespérées, qui ont vécu un échec et qui veulent faire un deuil et qui ont un fardeau dans leur cœur parce qu'ils ne peuvent pas l'accomplir. Ils ne savent pas qui va rouler la pierre pour nous. C'est scellé, c'est gardé. Qui va le faire? Et c'est une très bonne question parce que c'est la même chose pour nous des fois. Qui va m'aider à sortir de cette angoisse? Qui va m'aider à oublier l'échec du passé? Qui va m'aider à me débarrasser de ce fardeau, etc., etc.? Vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas? Bonne question. Qui nous roulera la pierre? Bonne question, mais on a une bonne réponse ici. Regardons le deuxième verset de Matthieu 28. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. La pierre était grande, vous êtes d'accord? Mais le grand tremblement de terre était encore plus grand. Voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre. Donc, est-ce que les femmes avaient besoin de rouler la pierre? Non. C'est, en fait, la puissance de Dieu qui a roulé la pierre. Et s'assit dessus, son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur, et ça c'est une chose importante, et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est pas ici, il est ressuscité. » Tout le monde dit, « Il est ressuscité. » Comme il avait dit, « Venez voyez, soulignez cela, venez voyez le lieu où il était couché. » Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit, elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Comme on dit, avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Amen. Donc là, au lieu d'un échec scellé, nous avons une victoire déclenchée. Amen. Au lieu d'un désespoir renfermé, nous avons une espérance qui est en train de renaître. Au lieu d'une angoisse qui est gardée en arrière de cette pierre, nous voyons une nouvelle joie qui est en train d'apparaître. Amen. Au lieu d'un deuil qui est bloqué, c'est un temps de célébration. Et c'est une allégresse qui est relâchée. Le fardeau n'est plus là, mais le fardeau est complètement enlevé. Et c'est quoi? Et c'est quoi la raison pour cette joie? C'est quoi la raison pour cette célébration? C'est quoi la raison pour cette allégresse? C'est tout simplement parce que Jésus est ressuscité. Il est vivant. Il a gardé sa parole. Il est revenu à la vie. Amen. Et savez-vous que cet événement dans l'histoire de l'humanité, c'est l'élément déclencheur qui peut totalement transformer votre vie? Toutes les choses qui vont mal dans votre vie peuvent être transformées, changées parce qu'il vit. Et parce que Jésus vit, je peux vivre encore. Parce que Jésus n'est plus dans le tombe, je ne suis plus obligé de rester dans le deuil, dans le chagrin, dans l'angoisse, dans la honte. Je peux vivre avec lui, et je suis ressuscité avec lui, je suis assis avec lui dans les lieux célestes. Je ne suis plus vaincu, je suis vainqueur. Et encore plus que vainqueur. Alléluia. Et c'est une révélation de cette réalité qui va tout changer dans votre vie. Amen. Est-ce que vous m'écoutez ce matin? C'est une révélation de la résurrection qui va totalement transformer votre vie. Mais voilà la chose qu'il faut jamais oublier. C'est que pendant cette période où Marie Magdala et Marie, la mère de Jésus, ils se promenaient pour se diriger vers le sépulcre. Ils étaient encore dans l'angoisse. Mais il est fort probable que Jésus était déjà ressuscité. Allô? C'est-à-dire qu'ils sont encore dans l'angoisse, encore dans le deuil, encore dans l'échec, encore dans les problèmes et dans le désespoir, mais Jésus est ressuscité. Mais elle ne savait pas. Combien de personnes aujourd'hui sont encore dans les problèmes, encore dans la misère, encore dans le péché, encore dans l'esclavage, mais Jésus, parce qu'ils ne savent pas que Jésus est ressuscité. Allô? Avez-vous posé la question, pourquoi est-ce que la pierre a été roulée? Moi, j'ai la conviction que probablement, c'est juste une idée que j'ai, mais probablement Jésus était déjà à l'extérieur du tombe avant que la pierre soit roulée. Il est fort probable. Penses-tu que vraiment, pense à ça, Jésus, le Fils de Dieu, il revient à la vie. Il a vaincu la mort. Il a la clé. Il a déjà fait un spectacle de Satan. Il est déjà descendu dans les régions inférieures. Il a déjà prêché à ceux qui sont morts avant. Il est déjà victorieux. Il est ressuscité. Ils reviennent à la vie dans le tombe. Penses-tu qu'ils disaient, « Hey, s'il te plaît, ouvre la porte. Quelqu'un, laisse-moi sortir. » Est-ce que Jésus avait besoin des anges pour rouler la pierre pour qu'il puisse sortir du tombe? Non, parce que vous vous rappelez, quand Jésus, finalement, quand il est apparu à plusieurs de ses disciples, ils étaient à l'intérieur d'une pièce, dans une chambre, avec la porte barrée, et tout d'un coup, Jésus, il apparaît. Ils n'avaient même pas besoin d'utiliser la porte. Parce que dans le corps ressuscité de Jésus, les portes, les roches, les barrières, ça fait rien pour lui, il passe à travers. Amen. Ça, c'est une autre chose. Si vous êtes ressuscité avec Jésus et assis avec lui, et la vie de la résurrection habite en vous, on devrait être capable de traverser les barrières et toutes les choses qui aimeraient faire obstacle à notre progrès aussi. Amen. Parce que la même puissance de la résurrection est en nous. Non, mais pourquoi est-ce que la pierre avait besoin d'être roulée? La pierre était roulée pour Marie et Marie de Magdala et les autres disciples, parce qu'elles avaient besoin de voir et recevoir une révélation qu'il n'est plus là. Tu pensais que ton échec était scellé en arrière de cette pierre. Tu pensais vraiment, mesdames, que ton désespoir était renfermé en arrière, que ton angoisse était gardée, ton deuil était bloqué, que ton fardeau va rester pour toujours. Mais regarde, la pierre est roulée, il n'est plus là. Tout ce qui est là-dedans, c'est les vêtements, les linges qui ont couvert son corps. Probablement sous forme d'une momie. Vous savez, parce qu'ils prenaient les linges et trempaient ça dans les aromates et dans tous les produits pour embaumer le corps de quelqu'un qui est mort. Donc, probablement, Jésus est juste sorti de cela. Donc, et puis, la nappe ou la serviette qui a couvert son visage était pliée et mise de côté. Donc, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu à l'intérieur du tombe, il n'est pas là. Et c'est ça que la raison pourquoi ils ont roulé la pierre. Pas pour laisser Jésus sortir. Jésus n'avait pas besoin d'aide. Vous êtes d'accord? ils avaient besoin, ces femmes et les autres avaient besoin de voir. C'est pourquoi l'ange a dit, venez voir le lieu où il était couché. Venez voir le lieu où il était couché. Savez-vous quoi? Que la réalité de la résurrection, comme je dis, c'est l'élément déclencheur. Si vous croyez à la résurrection, ça vous donne le droit de passer de la mort à la vie. Si tu confesses avec ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu ne crois pas à la résurrection, tu ne peux pas être sauvé. Tu vas rester dans ton deuil, ton angoisse, tes échecs et tout le kit. Mais si tu crois que Jésus est vraiment revenu à la vie, qu'il est ressuscité, tu peux être sauvé. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de résistance au message? Moi, je connais un homme qui a passé des années en étudiant la résurrection parce qu'il voulait prouver que c'était fausse. Parce qu'il s'est dit en lui-même que si je peux prouver que la résurrection n'a jamais eu lieu, on peut discréditer tout le christianisme. On pourrait dire que la foi chrétienne, c'est pas vrai, c'est pas digne de confiance. Si la résurrection n'est pas vraie, la foi chrétienne n'est pas valide. Mais savez-vous qu'est-ce qui s'est passé? En étudiant toute l'histoire et tous les éléments, toute l'évidence, pour pouvoir, en essayant de prouver que ça n'a jamais eu lieu, il a trouvé le contraire. Il était face à face avec une évidence qu'il ne pouvait pas réfuter, qu'il ne pouvait pas nier, et il a fini par accepter que Jésus est vraiment vivant. Pensez à ça, si Jésus est vraiment ressuscité, s'il est vivant, et si, après avoir ressuscité, la Bible dit que pendant 40 jours, il visitait avec ses disciples, il parlait avec eux des choses du royaume de Dieu. Et ensuite, il était enlevé au ciel, il s'est assis à la droite du Père. Où est-ce qu'il est aujourd'hui? Il était au droit du Père, n'est-ce pas? Il est là, il est vivant. Aujourd'hui, Jésus est vivant. Tout le monde dit, Jésus est vivant. Alléluia. Alléluia. C'est pas juste un conte de fées, mais c'est une réalité. Amen. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 16, deuxième page de vos notes. Venez voir le lieu où il était couché. Moi, je pense que aujourd'hui, on n'a pas besoin de voir dans une tombe naturelle, mais on a besoin de voir dans notre cœur la réalité de la résurrection. Nous avons besoin d'une révélation. Parce que combien de personnes, ils ont assisté à l'église, ils ont entendu les messages, les sermons, ils ont dit, ah oui, je sais que les chrétiens croient que Jésus est ressuscité. Mais aujourd'hui, ma prière, c'est que tout le monde dans ce lieu va quitter avec une révélation dans le cœur que Jésus est vraiment ressuscité. Il est vraiment en vie aujourd'hui. Le Fils de Dieu n'est plus dans le tombe. Le Fils de Dieu, il est venu, il est mort, il a été enterré, mais il est ressuscité et il vit éternellement et il revient en plus. Alléluia. En 2 Corinthiens 3, 16, il dit, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Quel voile? Le voile dont la Bible parle en 2 Corinthiens chapitre 4, qui dit que si notre évangile est encore voilé, l'évangile est voilé pour ceux qui périssent, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les yeux de ceux qui ne croient pas, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de la gloire de Christ. Savez-vous que s'il y a des gens aujourd'hui dans notre société qui ne croient pas à la résurrection, qui ne croient pas que Jésus est le Fils de Dieu, c'est parce qu'ils sont voilés par l'ennemi de leur âme, par Satan, leur adversaire? Allô, regardez-moi. Combien de vous croyez de tout votre cœur que Jésus est ressuscité? Si vous ne croyez pas que Jésus est ressuscité, je vous lance un défi aujourd'hui et j'aimerais regarder tout le monde dans les yeux. Tout le monde, pensez à ceci. Avez-vous, et je vous lance un défi, osez regarder le lieu où il était couché. Dans l'esprit, dans votre cœur, dans votre âme, osez regarder l'évidence qu'il y a que Jésus est vraiment vivant aujourd'hui. Il y a une chose qu'on ne peut pas nier. Voulez-vous savoir le problème aujourd'hui? Les gens ne veulent pas croire à la résurrection. Savez-vous pourquoi ils ne veulent pas croire à la résurrection? Parce que si vous croyez que Jésus est ressuscité, vous n'avez plus le choix que de flécher les genoux et de dire, Seigneur, si tu es vraiment ressuscité, c'est-à-dire que tu es vraiment Seigneur, c'est-à-dire que ma vie vraiment devrait t'appartenir, et c'est-à-dire que je devrais vraiment te servir au lieu de vivre pour moi-même. Mais les gens ne veulent pas. Ils ne veulent pas avouer que Jésus est vivant. Ils aimeraient mieux dire, mais comment est-ce qu'on peut savoir? C'est juste la Bible qui dit ça, et la Bible n'est pas digne de confiance. Et savez-vous que même sans la Bible, on a tellement d'évidence. C'est un fait historique qu'un homme qui s'appelait Jésus de Nazareth a vécu sur la planète Terre. C'est pas juste la Bible qui le dit. Tu peux lire les choses qui ont été écrites par des non-croyants. On a des autres historiens juifs, par exemple, qui ont écrit l'histoire d'Israël. Et il y a des personnages qui ne sont pas chrétiens qui mentionnent l'existence de Jésus dans les passages d'Antiquité. Il y a tellement, tellement d'évidence. Je n'ai pas le temps aujourd'hui. Je pourrais prendre une heure pour parler de l'évidence qui se trouve en dehors de la Bible pour prouver que Jésus a vraiment vécu sur la planète Terre. Personne qui est honnête avec lui-même intellectuellement peut nier le fait qu'un homme qui s'appelle Jésus a vécu. Personne peut nier le fait que Ponce Pilate a donné l'autorisation pour que cet homme soit crucifié. Ça, c'est un fait historique. Est-ce que la résurrection est un fait historique? On ne peut pas dire cela de la même façon. Mais on peut dire que son existence est vraie, sa crucifixion est vraie, et puis on peut regarder toutes les autres choses par la suite, et on peut regarder l'évidence. C'est comme un criminel qui va commettre un crime. Est-ce qu'on est obligé de voir l'acte de meurtre avant de condamner quelqu'un pour un acte criminel? Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce qu'on doit être présent lors de l'acte pour être témoin oculaire de l'acte, même dans la présence de la personne, pour pouvoir dire oui, il est coupable? Non. Qu'est-ce qu'on fait? On va prendre toute l'évidence et on va examiner toute l'évidence. On va demander aux témoins. On va regarder l'évidence physique et on va examiner les motifs, n'est-ce pas? Si on connaît les motifs, la motivation d'une personne, et si on a d'autres témoins, et si on a d'évidence physique, on peut dire que même si on n'était pas présent, on peut prendre une conclusion que l'évidence est assez grande pour dire que oui, il est coupable, oui, il est innocent. Et c'est la même chose. Est-ce qu'on peut prouver à 100% que Jésus est ressuscité des morts? Prouver? Non. Pas plus qu'on peut prouver que quelqu'un a commis un meurtre quand on n'était pas là. Mais l'évidence peut être tellement flagrant et frappant qu'on ne pourrait jamais nier le fait. Est-ce qu'on peut prouver à 100% que Bin Laden était en arrière des attentats du 11 septembre? Pas vraiment, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui peut dire oui. Parce qu'il a confessé. On a les vidéos. Il dit, c'est moi qui l'ai fait. Il est content. Mais quelqu'un peut toujours dire, oui, mais est-ce que la vidéo est fiable? Est-ce que c'est vraiment lui ou c'est juste un acteur? Mais tu prends toute l'évidence, toutes les motivations, tous les témoins, toutes les autres choses, tu mets tout ensemble et on te dit, non, c'est lui qui est coupable. Et je suis convaincu de ça. Et la même chose pour la résurrection de Jésus, mes amis. Jésus est mort. Jésus était enterré et Jésus est vivant aujourd'hui. Amen. Regardons, venez voir, juste quelques petites choses à penser, à considérer. Et je pourrais parler pendant des heures de cela, mais je vais juste donner 6 choses qu'on peut voir qui nous montrent que vraiment Jésus est ressuscité. Et je vais mettre l'accent sur les 2 dernières. Première chose, c'est la pierre roulée. Cette pierre a été roulée. Comment est-ce que la pierre a été roulée et pourquoi? Ça, c'est une chose. C'était une pierre qui était gardée par les soldats, scellée, et c'est une pierre qui était grosse et énorme. Pensez-vous vraiment que c'était par hasard que cette pierre fut roulée? Il y a des choses, je ne vais pas aller en détail, mais juste le fait que la pierre a été roulée, c'est une chose qui est une évidence pour la résurrection. La deuxième chose qui est encore plus puissante, c'est le sceau qui était brisé. Savez-vous que quand les soldats ont scellé la tombe, quelqu'un qui oserait briser le sceau de Rome, ça serait un crime qui pourrait être puni par la mort. Pensez à la condition des disciples après la crucifixion de Jésus. Qu'est-ce qu'on sait? C'est que les disciples avaient peur, ils ont voulu même renier Jésus-Christ. Pierre a renié Jésus 3 fois, n'est-ce pas? Tout le monde a été dispersé, tout le monde a abandonné Jésus, tout le monde a peur. Pensez-vous qu'ils vont oser attaquer une garde, une escouade, des soldats romains, briser un sceau de la Rome pour pouvoir voler le corps de Jésus, pour pouvoir dire qu'il est ressuscité? Peu probable, vous êtes d'accord? Le sceau a été brisé. Une autre chose, c'est que le tombeau était vidé aussi. Un corps a été mis dedans, le corps n'est plus là. Les soldats ont été effrayés. Encore, n'oubliez pas que les soldats de Rome, les soldats romains, ils auraient pu être exécutés parce qu'ils n'ont pas réussi leur mission. Les soldats ont été effrayés. Toutes ces choses, il y a plein de choses qu'on pourrait voir comme évidence, mais il y a deux choses pour moi qui sont primordiales. Je vais mettre l'accent là-dessus aujourd'hui. Parce que je crois que si vous pouvez comprendre cela, ça va rouler la pierre qui peut-être tient votre cœur, qui vous empêche de croire à la réalité de la résurrection. Pensez à ceci, les témoins confirmés. Vous savez qu'en Corinthiens chapitre 15, on voit que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Tout le monde dit, il est ressuscité. Et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 11. Ensuite, il est apparu à plus de, combien? 500 frères à la fois. Les gens disent que c'était une hallucination. C'était pas vrai. C'était juste, les gens imaginaient voir Jésus parce qu'ils étaient tellement angoissés. Croyez-vous vraiment que 500 personnes ont eu une hallucination à la fois? 500 témoins. On peut, dans un corps de justice ici sur la terre, sur la parole de 1, 2, 3 témoins, on peut condamner quelqu'un à la mort. Là, on a 500 personnes qui étaient des témoins oculaires de Jésus. OK? Et le fait que ces témoins ont vraiment vu Jésus, c'est collaboré, pas juste dans la Bible, mais comme je dis, il y a des sources à l'extérieur de la Bible qui fait mention des témoignages de ces personnes aussi. Donc, dites pas que oh, c'est juste parce que c'est marqué dans la Bible. Non, non, non. Il y a des témoins qui ont vu Jésus, et c'est des témoins oculaires qui ont vu le Fils de Dieu ressuscité. Mais regarde, c'est pas juste le fait qu'ils ont vu quelque chose. Pour moi, l'évidence qui est le plus flagrant et l'argument qui est le plus solide, c'est numéro 6, c'est les vies transformées. Parce que c'est pas juste n'importe qui a vu Jésus. C'est des personnes qui, autrefois, avant sa résurrection, ne croyaient pas en lui. Alors, est-ce que vous me voyez? Et vous écoutez. Les gens qui étaient avant la résurrection, les ennemis de Jésus, les sceptiques, les gens qui ne croyaient pas, les gens qui pensaient qu'il était fou, les personnes qui pensaient que toute cette histoire de Jésus, c'était la folie. Les personnes qui étaient autrefois les ennemis ont vu quelque chose qui les ont transformés et sont tout d'un coup devenus les croyants. Est-ce que vous êtes là? C'est quelque chose. Regarde, on va donner un exemple. Regarde juste la famille de Jésus. Vous savez que Jésus avait des frères et des sœurs, n'est-ce pas? En Marc chapitre 3, verset 21, les parents de Jésus ayant appris ce qui s'est passé, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, il est hors de sens. C'est qui disait que Jésus est hors de sens? Ses parents. incluant ses frères. En fait, Jean 7:5 dit qu'à ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Ses frères ne croyaient pas en lui. Ses frères pensaient qu'il était fou. Imaginez, hein, tu es le petit frère de Jésus et ton frère commence à faire des choses comme aller prêcher et parler d'une manière un peu bizarre. Imaginez quel genre de conversations ont eu lieu dans la maison de Marie et Joseph. Peut-être les petits frères qui se moquaient de Jésus. Oh, da, da, da. On ne sait pas. Et en plus, imaginez être le petit frère de Jésus qui est parfait, qui ne fait jamais de tort. Le petit chouchou. Ah, toujours le favori des parents. Je sais pas. Imagine la pression. Si le grand frère demande à son petit frère de faire quelque chose, sûrement il aurait pu dire peut-être, je suis pas ton esclave. Peux-tu imaginer le petit frère de Jésus, Jacques, Jude? Pour qui est-ce que tu prends, Jésus? Je suis pas ton esclave. Avez-vous déjà entendu des choses comme ça dans les maisons? Les frères? Hey, c'est pas toi le boss, c'est pas toi le babysitter, c'est pas toi qui es en charge. Je peux imaginer ces genres de conversations avec Jacques, Jude et Jésus. Pour qui est-ce que tu te prends, Jésus? Donc, je veux que vous voyez, Jude, Jacques pensaient que Jésus était fou. Allô, vous êtes là? Ils pensaient que leur grand frère était fou. Ils ne croyaient pas en lui. Mais avez-vous remarqué dans le verset précédent de 1 Corinthiens 15 que quand Paul dit qu'il a apparu, il est apparu à 500 personnes à la fois, et il dit en verset 7, ensuite il est apparu à qui? À Jacques. À son petit frère Jacques. Et tout d'un coup, le petit frère Jacques qui peut-être a dit, je suis pas ton esclave, tout d'un coup, il change d'idée. La pierre est roulée de son cœur. Tout d'un coup, il voit la réalité que, ah, Jésus, tu étais mort, tu n'es plus mort, tu es en vie. Je pense bien que je suis ton esclave. En fait, il le dit lui-même, regarde ce verset, Jacques 1:1, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Je suis ton serviteur, Jésus. C'est quoi qui l'a transformé? La puissance de la résurrection. Tout d'un coup, la pierre était roulée. Il a vu son grand frère ressuscité d'entre les morts. C'est pas juste Jacques non plus. On peut lire cela en Jude. Jude 1:1, Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. À ceux qui ont été appelés et qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Jude, serviteur de Jésus-Christ. Le petit frère, serviteur de celui qui pensait était fou avant. Avez-vous vu cela? Pensez à Paul, Saul de Tarse, qui persécute l'Église, qui est en train de chasser les chrétiens pour les mettre en prison. Il tue les hommes de Dieu. Et il met même les femmes en prison. C'est un gars qui était un blasphémateur. Il était enragé contre les chrétiens. C'est quoi qui se passe, qui change sa vie, que tout d'un coup, celui qui était contre l'Église commence à prêcher la foi qu'il essayait de détruire. C'est quoi qui l'a changé? Il a vu Jésus ressuscité. Allô? Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Ça, c'est un fait historique. Je ne parle pas d'une histoire de la Bible. C'est un fait historique que des personnes qui étaient une fois contre la foi chrétienne ont commencé à prêcher la foi chrétienne. Quelque chose s'est passé. Quelque chose. Ça, c'est une évidence qu'ils ont vraiment vu quelque chose. Savez-vous que ces personnes, on parle des 12 disciples, Judas a trahi Jésus, il s'est suicidé. Savez-vous que tous les autres, sauf Jean, ont eu cette expérience de voir Jésus, de croire en Jésus, mais la croyance qu'ils avaient en Jésus était si grande qu'ils étaient prêts à devenir les martyrs pour Jésus-Christ. Tout le monde, sauf Jean, ont vécu la mort violente à la main de ceux qui les persécutaient parce qu'ils croyaient que Jésus était ressuscité. Combien de personnes croyez-vous que vraiment ils seraient prêts à donner leur vie et mourir pour quelque chose qui était une farce, quelque chose qu'ils ont fabriqué? Même Jacques ici, il était tué d'une manière violente. Ils ont essayé de tuer Jean. Selon la tradition et selon l'histoire, ils ont essayé de le faire bouillir en huile. Mais il n'est pas mort. Ils ne pouvaient pas le tuer. Donc, ils l'ont mis sur l'île de Patmos. Ils ont dit, on ne peut pas le tuer. On va le mettre dans une île quelque part. Et sur cette île de Patmos, il a une vision, une révélation de Jésus. Il a vu encore une révision de Jésus ressuscité. Et ça, c'est le livre d'Apocalypse que nous avons aujourd'hui. Quelque chose, n'est-ce pas? Jésus est ressuscité. La pierre a été roulée et ça a changé, transformé leur vie. Combien de vous croyez que Jésus est ressuscité? Si vous ne croyez pas, je vous lance le défi de regarder d'une manière honnête et authentique. Regarde le lieu où il était couché, mais regarde l'évidence qui entoure sa vie, sa crucifixion, sa résurrection. Regarde l'évidence de toutes ces vies qui ont été transformées. C'est les faits historiques. Saul de Tarse, un homme qui persécutait l'Église, tout d'un coup il devient un prédicateur de la foi qu'il essayait de détruire. Quelque chose s'est passé, quelque chose de vrai et quelque chose de réel. Amen. En fait, il a dit lui-même en Philippiens chapitre 3, « Quant au zèle persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de justice de la loi, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » N'oubliez pas que ici c'est un homme qui autrefois voulait rien de plus que de tuer et de détruire la vie chrétienne et la foi chrétienne. Et tout d'un coup, il dit, je regarde tout comme une perte. C'était un homme d'influence. C'est un homme qui avait des moyens financiers. C'est un homme qui avait une éducation. C'est un homme qui avait position et pouvoir dans la société. Il était prêt à tout lâcher et tout donner et tout abandonner parce qu'il a vu Jésus ressuscité. Amen. Tu as juste à lire 2 Corinthiens 11, toutes les choses qu'il a subies et souffert, la persécution qu'il a vécue. Est-ce qu'il aurait vraiment été prêt à tout abandonner et vivre la persécution pour une hallucination, pour un mensonge, pour quelque chose qui n'était pas vrai? Je crois que non. Cet homme a été transformé. Il continue, on va terminer là. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur pour lequel j'ai renoncé à tout et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. On va prier ce matin. Alléluia. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que si vous avez une pierre qui tient votre cœur, si vous avez des échecs que vous pensiez étaient scellés une fois pour toutes, un désespoir qui était renfermé, une angoisse gardée, un deuil bloqué ou un fardeau qui restait, la bonne nouvelle, c'est que Dieu lui-même, il veut rouler la pierre. Il y a tellement d'évidence, même intellectuelle, pour nous donner raison de croire en Jésus-Christ. Tellement d'évidence, même en dehors de la Bible. Mais savez-vous quoi? Il y a quand même un élément qu'on ne peut pas oublier. Que malgré toute cette évidence, Dieu nous demande quand même de croire avant de voir. C'est un élément de la foi. Pas une foi qui est aveugle, pas une foi qui est basée sur rien, mais une foi qui est basée sur l'évidence. Une foi qui est capable de dire, « Seigneur, je ne vois pas, je n'étais pas présent quand tu es revenu à la vie, mais j'y crois. » La Bible dit que quand quelqu'un se convertit au Seigneur, que le voile est enlevé. Et aujourd'hui, le Seigneur veut enlever les voiles. Si notre évangile est encore voilé, c'est voilé pour ceux qui périssent. Dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les yeux pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de la gloire de Jésus-Christ. Père, je prie ce matin pour chaque homme et chaque femme. Il y en a ici que je le ressens dans mon cœur qui ne veulent pas croire à la résurrection. Ils ont été bombardés par les mensonges de notre société en disant « Oh, mais on ne peut pas se fier à la Bible, c'est pas vrai, c'est les hommes qui l'ont écrit, toutes ces choses-là. » Mais Seigneur, l'évidence est tellement grande. Seigneur, je prie que les gens puissent laisser de côté leurs préjugés et qu'ils puissent examiner honnêtement et authentiquement la véracité des Écritures, mais même plus toute l'autre évidence qui démontre que tu es vivant. Seigneur, tu es le roi des rois. Seigneur, tu es venu, tu es mort pour nous. Tu as porté en toi-même nos péchés. On pense à Marie Magdala. On pense, Seigneur, à cette femme qui a eu une vie dure et difficile et comment tu l'as délivrée. On pense à la femme qui a été prise dans l'acte d'adultère. Et quand tout le monde était prêt à l'écraser avec les pierres et le lapider, tu étais là en disant que celui qui n'a pas péché lance la première pierre. Tu as dit, Seigneur, à cette femme que moi non plus je ne te condamne pas, va, ne pêche plus. On voit ta miséricorde, on voit ta grâce. Seigneur, on pense à toutes ces personnes, Zacchaïs qui était un homme malhonnête, qui a triché les gens, qui avait la honte et la culpabilité dans son cœur, tu l'as pardonné. On pense à toutes ces personnes, Seigneur de la Bible, que tu as rencontrées et que tu as délivrées. On voit ton cœur, ton attitude. Et on voit, Seigneur, que ce n'est pas juste une histoire, ce n'est pas un conte de fées, c'est vraiment toi qui as fait cela. Et ta parole dit que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. La réalité, c'est qu'un jour, tous les genoux vont fléchir et toutes les langues vont confesser que Jésus est Seigneur. Sans exception, un jour, tout le monde va voir que Christ est ressuscité. Mais Seigneur, entre-temps, c'est à nous de croire, de regarder l'évidence, d'examiner qu'est-ce que tu as dit, de croire à ta parole et de croire avant que ça soit trop tard. Seigneur, ma prière, c'est que ce matin, on va tous te laisser rouler la pierre qui tient notre cœur. Pour quelques-uns, ils ont besoin de voir que tu es ressuscité. Pour d'autres, ils ont besoin de voir que tu es le même, que tu guéris encore aujourd'hui. Pour d'autres, ils ont besoin de voir que le Christ qui est ressuscité veut pourvoir tous nos besoins. Peu importe dans quel domaine, Seigneur, je demande que tu puisses ouvrir les yeux. Enlève le voile, Seigneur. Donne-nous un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance, au nom de Jésus. Mais surtout, Seigneur, s'il y a une personne ici qui n'a pas encore reçu comme sauveur et Seigneur, je prie pour eux. Il y a trois autres versets que je vais vous montrer. C'est sur le PowerPoint, je pense. Mais première, c'est Romains chapitre 10, verset 9. Si ce n'est pas sur le PowerPoint, ce n'est pas grave. Qui dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Mes amis, écoutez-moi. Mon cœur est touché ce matin parce que je sais qu'il y a probablement des personnes ici qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur Jésus. Si tu confesses, en effet, si de ta bouche, tu professes Jésus est Seigneur, comme Jacques a dû faire. Jacques, serviteur de Jésus-Christ. Jude, serviteur de Jésus-Christ. Ce n'est pas juste mon grand frère, c'est mon Seigneur et mon roi. Combien de vous? Est-ce que Jésus est juste un personnage de l'histoire aujourd'hui? Ou est-ce que Jésus est votre Seigneur, votre Maître? Est-ce que vous pouvez dire avec honnêteté, moi, je suis un serviteur de Jésus-Christ? si de ta bouche tu professes Jésus est Seigneur et si de tout ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est-à-dire que si tu ne le fais pas, malheureusement, tu ne seras pas sauvé. Mais Dieu veut que vous soyez sauvés. L'autre verset qu'on va voir, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Et finalement, verset 33, mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ce matin, et je fais ceci à tous les dimanches matins, c'est un engagement que j'ai fait. Je ne laisse pas les personnes sortir sans avoir l'occasion de donner leur vie au Seigneur Jésus. Je vous pose la question, est-ce que Jésus est votre Seigneur? Est-ce que vous croyez que Dieu l'a ressuscité des morts? Est-ce que tu as donné ta vie à lui? Sinon, je vais te donner la chance de le faire. Je vais compter à trois, je vais taper ma main. Si tu es là et tu veux donner ta vie à Jésus ce matin, tu veux faire comme ce verset dit, confesser même devant les hommes. C'est-à-dire, en levant la main, tu confesses, oui, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Et je crois qu'il est mon Seigneur. Je suis prêt à le servir. Je crois qu'il est ressuscité des morts. On va prier avec toi et tu peux sortir d'ici sachant que tu es enfant de Dieu et serviteur de Jésus-Christ. Amen. Tu dis, mais je suis une bonne personne. Être une bonne personne, ça ne suffit pas. Peut-être tu dis, oh, je vais à l'église. Ça ne suffit pas non plus. Tu lis la Bible, tu pries, ça ne suffit pas. La seule chose qui peut te sauver de tes péchés, c'est de confesser de ta bouche le Seigneur Jésus et de croire de ton cœur que Dieu l'a ressuscité. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui a besoin de donner sa vie à Jésus-Christ? Qui veut le faire? Un, deux, trois, levez la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un? N'ayez pas honte de Jésus. Moi, je crois qu'il y a au moins une, deux, trois, quatre personnes, peut-être même. Moi, je ne sais pas, je ne connais pas votre cœur. Peut-être tout le monde ici pense que tu as déjà donné ta vie au Seigneur Jésus. Peut-être tu viens à l'église depuis des années, mais dans ton cœur, tu sais. Ton cœur n'est pas en règle avec toi. Si quelqu'un, je vous lève la main. Peut-être il y a quelqu'un ici qui ce matin dit, moi j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, mais je me suis éloigné de lui. Aujourd'hui, je veux revenir à lui. Je veux confesser qu'à partir d'aujourd'hui, je vais être serviteur de Jésus-Christ. Je veux reconsacrer ma vie à Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le faire? Je vous lève la main. Oui, une personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ce matin? Je vais te demander de venir ici. On va prier ensemble. Pourquoi est-ce que je fais cela? Parce que si on ne peut pas, devant les hommes, dans une église remplie de chrétiens qui aiment Jésus, si on ne peut pas le faire, comment est-ce qu'on va le faire devant les personnes qui croient en Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut dire, j'ai pas honte de Jésus, je veux le servir aujourd'hui, je veux reconsacrer ma vie à lui? Quelqu'un d'autre? Venez-vous-en. Ton nom encore, c'est Luc. Luc, tu veux servir Jésus aujourd'hui. Tu veux être son serviteur. Tu veux vivre ta vie pour lui. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres qui veulent le faire aussi? On va se lever debout, on va prier avec Luc ce matin. Seigneur, merci. On va juste répéter cette prière. Merci, Père. Aujourd'hui, je confesse avec ma bouche que Jésus est mon Seigneur, mon Sauveur et mon Roi. Je crois de tout mon cœur que Jésus est mort pour moi, qu'il a été enterré et qu'il est ressuscité. Et je suis ressuscité avec lui. Et aujourd'hui, je déclare que je suis le serviteur de Jésus-Christ. Et je suis enfant de Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur. Mes péchés sont pardonnés. Je suis lavé. Je suis purifié. Et je vais te servir tous les jours de ma vie. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on va remercier le Seigneur pour... Pour Luc, je suis content pour toi. Je ne sais pas si tu as déjà une Bible, mais sinon, on a...